France Culture, carnet de santé, Marina Carrère d'Ancos.
De quoi sont réellement morts Saint-Louis ou Diane de Poitiers, la favorite d'Henri II ? Que nous apprend le cerveau de Descartes ? De quoi souffrait Marat avant d'être assassiné par Charlotte Corday ? Les restes rapportés en Russie sont-ils bien ceux du dictateur Adolf Hitler ? Voilà quelques grandes questions auxquelles la paléopathologie, la médecine appliquée aux restes humains anciens, tente de répondre. La médecine légale, des techniques toujours plus innovantes où se croisent histoire, archéologie et sciences fondamentales permettent de résoudre ces véritables cold cases qui ont marqué notre histoire. À la tête de ces enquêtes, des experts passionnés. Et nous recevons aujourd'hui l'homme qui fait parler les morts, rien que ça. Philippe Charlier, bonjour.
Bonjour Marina.
Vous êtes médecin légiste, directeur du laboratoire Anthropologie, Archéologie et Biologie de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, auteur de très nombreux livres. Et le dernier, absolument passionnant, on va en parler, coécrit avec David Alliot, qui s'appelle « L'histoire au scalpel, autopsie des morts célèbres », donc aux éditions Talendier. On va en parler, on va évoquer aussi une exposition très intéressante consacrée aux momies qui se tient en ce moment au Musée de l'Homme à Paris, mais déjà... C'est très tôt dans votre enfance que votre passion est née.
Oui, je devais avoir l'âge de 6 ou 7 ans à peu près. J'étais en voyage familial au pied du Vésuve, à Pompéi. Et à Pompéi, malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et certains de ces corps sont restés sur place, se sont décomposés, ont été recouverts par les cendres, les lapilli, cette fine poussière noirâtre. Et lorsque les premiers fouilleurs modernes, à la fin du 19e siècle, début du 20e, ont trouvé ces corps, il y avait une sorte de bulle tout autour. Et en injectant du plâtre, ça leur permettait d'avoir une sorte de fantôme de ces corps du premier siècle après Jésus-Christ. Et c'est ça qui m'a fortement impressionné quand j'étais tout petit. D'abord, c'est toujours fortement impressionnant, même à l'âge adulte, je peux vous le dire. Mais en étant enfant, je me suis dit, avec mon héritage familial à la fois médical et pharmaceutique, et puis avec cette appétence pour l'archéologie que j'avais depuis longtemps, je me suis dit que j'allais faire, pour vous paraphraser, parler les morts, tout simplement, mais d'une façon bien pragmatique, bien cartésienne.
Justement, qu'est-ce que vous voulez leur faire dire ?
Eh bien, j'ai envie de leur faire raconter leur vie, tout simplement. J'ai une vision un peu Roland Barthes de ces corps, comme si nous, médecins, et notamment médecins légistes, nous étions des lecteurs de cadavres. Le médecin clinicien étant, lui, un lecteur de corps. Corps parlant avec la bouche, mais le corps avec ses cicatrices, avec ses lésions cutanées, avec sa coloration, parfois avec son odeur aussi, exprime énormément de maladies internes. C'est la même chose sur un squelette, sur une momie, sur une relique, sur un masque mortuaire, sur un petit morceau d'éponge imbibé de sang, une hostie qui prétendument saigne. Voilà, autant d'artefacts différents sur lesquels j'ai pu travailler et travaille encore. Mais à chaque fois pour moi, ce sont toujours des patients.
Alors, depuis des années, on suit vos travaux. Vous avez travaillé sur Lucie, vous avez travaillé sur Diane de Poitiers, Henri IV, Napoléon Ier, Adolf Hitler, Murat, Louis XI. Comment vous les avez choisis ? Ils vous choisissent ou c'est vous qui les choisissez ?
Si je vous dis qu'ils me choisissent, ça pourrait paraître un peu facile.
C'est pour ça que je le dis moi.
Oui, c'est gentil, ça me protège. Ça ne serait pas entièrement faux. C'est-à-dire que parfois, je vous donne un exemple. J'allais travailler sur les restes d'Agnès Sorel, favorite officielle du roi de France, Charles VII, 1422-1450. Et en allant récupérer des petits bouts d'elle, une mèche de cheveux en l'occurrence, à Chinon, dans le musée des Amis du Vieux Chinon, juste à côté d'elle, dans la même vitrine, il y avait un bocal qui est le bocal dit de Jeanne d'Arc, avec à l'intérieur des fragments prétendument de la petite sainte, et qui en fait se sont avérés être des fragments de momies égyptiennes, humaines et même de chats. Voilà, là il y avait eu une concordance en travaillant sur un patient A, je suis tombé sur un patient B en me disant « Tiens, dans un an ou dans deux ans, ça peut être intéressant de travailler dessus. » Maintenant, honnêtement, de plus en plus, ce sont les collectivités territoriales, ce sont les évêchés, ce sont des ministères, voire des congrégations religieuses qui viennent vers mon laboratoire, vers moi, pour nous demander de travailler sur tel ou tel patient, pour vérifier est-ce que tel cœur s'est conservé dans un reliquaire de façon naturelle et spontanée, ou bien de façon facilitée par la main de l'homme. De savoir également s'il y a véritablement un fragment de cœur royal dans une peinture conservée dans un musée de la banlieue parisienne.
On va parler de ça, parce que c'est effectivement très intéressant. Mais vous venez d'évoquer un cœur dans un reliquaire. On ne le sait pas tous, mais c'est compliqué en fait. Dans votre métier, c'est qu'à une époque, les restes étaient partagés, donnés à différentes personnes et conservés à différents endroits. Pourquoi ?
Alors, c'est compliqué d'un côté, parce qu'il faut reconstituer ce puzzle. Parfois, ils sont éparpillés façon puzzle. C'est aussi intéressant parce que quand un corps a été mutilé lors de la Révolution française, par exemple, ou des guerres de religion au XVIe siècle, eh bien, si une partie a été mise de côté, ça peut nous permettre de travailler malgré tout sur ce personnage historique. Alors, pourquoi ce morcellement? Tout simplement parce qu'il y a, deux mots de latin, le most teutonicus. C'est une façon qu'avaient les chevaliers teutoniques à l'origine, au Moyen-Âge, lors des premiers pèlerinages des chrétiens en Terre Sainte. Lorsque un individu mourait loin de son foyer, il était momifié, ou alors il était bouilli, et on récupérait sa tête embaumée d'un côté, ses mains éventuellement, et le reste du corps, éventuellement le cœur, momifié. Eh bien, les souverains français ont fait la même chose. Assez souvent, les rois de France, prenons par exemple Louis XIII ou Louis XIV, décidaient d'offrir leurs entrailles, c'est-à-dire leurs viscères littéralement, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'était enfoui dans une petite crypte au pied de l'autel principal. Ils offraient leur cœur embaumé au général des jésuites, à l'époque. On était bien avant le départ par des jésuites sous Louis XV. Et puis, ils offraient également leur corps embaumé à la basilique Saint-Denis, qui est une basilique royale depuis Saint-Louis.
Donc, différents endroits en plus pour se recueillir.
Différents endroits pour se recueillir, mais aussi pour faire une sorte de marquage territorial des propriétés du roi. C'est un peu comme si vous mettiez au mille bornes, vous mettez votre possession, ou comme sur un tableau de Monopoly, vous construisez des hôtels ou des maisons.
Alors, votre dernier livre, donc je le citais, L'histoire du scalpel, autopsie des morts célèbres aux éditions Talendier, est absolument passionnant. Et en plus, une iconographie vraiment très intéressante, superbe, qui apporte beaucoup de choses.
Inédite surtout, on a essayé de montrer des images qu'on ne connaît pas.
C'est extraordinaire. Vous avez 14 patients qui sont passés sous votre scalpel pour remettre en question, pour confirmer ou éclairer les circonstances de leur mort. C'est, je disais en introduction, des cold cases historiques, mais c'est vrai.
Ce sont des very, very cold cases, en effet. Soit parce que l'identité de ces patients ou de leurs restes était présumée, ou douteuse, et parfois elle a été confirmée, parfois elle n'a pas été confirmée, ce sont des restes appartenant à quelqu'un d'autre, soit parce que les circonstances de leur décès ou les maladies dont ils ont pu souffrir pendant leur existence étaient mal étiquetées, peu connues. Et donc à chaque fois, quand on mélange en fait les sciences fondamentales d'un côté, dont la médecine, et les sciences humaines de l'autre, dont l'anthropologie, dont l'archéologie, l'histoire de l'art aussi, la paléographie, l'étude des textes anciens, la philologie aussi, donc toutes ces disciplines qui sont finalement très connexes et qui travaillent très bien les unes avec les autres, et bien quand on les mélange, ça nous permet de dire si l'histoire dit la vérité ou pas. Et ça, c'est quand même fondamental.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que certains de ces personnages, vous les aviez déjà largement étudiés. Est-ce qu'on peut encore, il y a 10 ans, vous auriez étudié un personnage, est-ce qu'on peut encore faire des découvertes? Est-ce qu'il y a des techniques qui évoluent encore, qui vous permettent d'en dire plus par rapport à il y a 20 ans, par exemple?
Alors, pour répondre à cette question, justement, je ne suis pas venu seul dans ce studio, juste
non,
à côté de moi.
Je ne l'avais pas invité, mais ce n'est pas grave.
Écoutez, voilà.
Il est le bienvenu.
C'est un invité surprise, mais il est assez silencieux quand même, quoique. Je suis venu justement avec la modélisation en 3 dimensions du crâne de Henri IV. Non seulement son crâne, mais également toute sa colonne vertébrale au niveau cervical, et puis sa langue, etc. C'est l'exemple même du patient sur lequel on continue toujours de travailler.
Juste, avant que vous ne l'évoquiez, j'aimerais bien qu'on précise un point, parce qu'il y a quelques années, vos conclusions avaient beaucoup fait parler.
Oui.
On disait que c'était pas sa tête, etc., qu'elle n'était pas authentifiée. Aujourd'hui, le problème est résolu, c'est bien celle du roi de France.
Oui, enfin,
c'est important de le préciser, parce qu'il y a eu tellement de polémiques.
C'est important, alors sauf à être complotiste et à systématiquement refuser une vérité à la fois historique ou scientifique. Voilà, c'est pas sur France Culture en tout cas. C'est vraiment la tête, et ne serait-ce que sur un argument absolu qui est la superposition en 3 dimensions du masque mortuaire, qui n'est remis en question par personne, sur les traits osseux de cette tête, avec une correspondance anatomique parfaite. Donc, superposer l'infini, sur le plan statistique, c'est plutôt pas mal. Donc, en l'occurrence, cette tête, nous continuons toujours à travailler dessus. On a commencé à travailler dessus en 2009. On est en 2026 et vous voyez qu'on continue toujours de l'exploiter au maximum, sans l'abîmer, sans la dégrader, avec tout le respect dû au corps mort, qu'il s'agisse d'Henri IV ou d'un illustre anonyme de n'importe quelle autre période antique ou autre. Et en l'occurrence, la dernière innovation qu'on a fait, c'est reconstituer sa voix, le début de sa voix en tout cas, avec les premiers phonèmes. On a la chance que cette tête ait été très bien préparée et desséchée. D'abord par Ravaillac,
voilà. C'était pas son but premier,
c'était
mais
pas son but premier, mais en fait, comme il a provoqué une hémorragie massive, eh bien, il a en grande partie déjà desséché le corps du roi. Mm-hmm. Ensuite, il a été autopsié sous la direction de Jacques Guillemot, qui a à nouveau retiré une grande partie de l'humidité du corps, et ensuite il a été embaumé par Pierre Pigret, qui a fini le travail de conservation. Donc on a encore les cordes vocales, on a une partie de la langue très rétractée, on a toute l'anatomie interne de ces voies aériennes supérieures, et donc après un long travail avec le service d'ORL de l'hôpital Foch, avec le laboratoire de phonologie du CNRS, et avec le laboratoire de radiologie de la Pitié-Salpêtrière, et mon laboratoire bien sûr, on a pu reconstituer A, E, I, O, U, qui sortent de la bouche même de ce roi. Et ce qu'on aimerait bien, évidemment, dans les étapes ultérieures, c'est essayer d'aller plus loin et de lui faire dire des phrases complexes cette fois-ci, non pas simplement des voyelles. Et évidemment, ce qu'on aimerait lui faire dire, ce sont les premières phrases de l'édit de Nantes, cet édit de tolérance entre catholiques et protestants. Je pense que notre France, notre Europe et notre monde, en 2026, a bien besoin d'une petite injection de rappel de tolérance.
C'est extraordinaire, franchement. Alors, on sait que vous utilisez, bien sûr, tous les moyens d'imagerie moderne, enfin, tout ce qui peut être utilisé, les datations carbone 14, le scanner 3D, enfin, tout. Mais il y a même des choses, j'ai découvert, que vous avez déjà fait appel au nez de grands parfumeurs.
Oui.
Alors, pourquoi faire?
Ça vient d'une expérience très personnelle, mais aussi professionnelle. Lorsque je faisais des fouilles, en étant boursier à l'école française d'Athènes, je faisais des fouilles archéologiques sur une nécropole qui se trouve à Thanos, en Crète, et là, à l'ouverture d'une sépulture d'époque archaïque, si je me souviens bien, on est aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ, et bien on a, 7e, 6e, on a ouvert, et il y a une odeur extrêmement forte qui en est sortie pendant quelques secondes. La sépulture n'avait jamais été ni profanée, ni fouillée précédemment, et une odeur vraiment de parfum, très capiteuse, mais sur une base pas alcoolique comme nous maintenant, mais plutôt un peu graisseuse. Ça sentait un peu le graillon, un mélange de de 5 de Chanel et de baraque à frites.
Voilà. Oui.
Un peu cette idée-là. Et en quelques secondes, ça s'est dissipé. De ce jour-là, je me suis dit, à chaque ouverture d'un reliquaire, d'une sépulture intacte, je veux avoir un nez de parfumeur à côté de moi, qui va fixer au moins dans sa mémoire parfaite, entre guillemets, cette sensation-là, et qui peut la décrypter. Parce qu'évidemment, on a des analyseurs qui nous permettent de dire, il y a de l'encens, il y a du benjoin, de l'aloès, de la camomille, tout ce que vous voulez, comme parfum, ou comme odeur, ou molécule. Mais en fait, avec en connaissant toutes les imperfections, toutes les impuretés des odeurs, les nez de parfumeurs sont possibles d'aller il leur est possible d'aller encore plus loin et de dire c'est de l'encens, mais de l'encens du Yémen du Sud, il y a telle chose en plus à côté. Et donc non seulement des nez de parfumeurs, mais très récemment on a également exploité des œnologues et des sommeliers qui ont un nez différent pour respirer cette fois-ci le cœur de Voltaire qui est à la Bibliothèque Nationale de France. Et là on va expérimenter très prochainement un chocolatier. Un ami chocolatier qui est également sculpteur et qui va sentir ses odeurs. Et d'ailleurs, les nez de parfumeurs ont senti la tête d'Henri IV. Ils ont respiré au niveau de la bouche et ça sentait pas la rose, si je peux me permettre. Toujours. Ils ont respiré également la peau au niveau du visage, du front et de la nuque. Et ils sentaient en fait le maroquin. C'est-à-dire cette reliure, vous savez, du 17e, 18e siècle, en peau de chèvre habituellement ou éventuellement de chameau. Donc ça sentait la vieille peau tannée, tout simplement. Mais il n'y avait plus d'odeur particulière liée à son embaumement. Celle-ci, malheureusement, s'était dissipée.
Votre métier, bon, évidemment, il y a beaucoup de techniques et beaucoup d'émotions. Pendant deux histoires de votre livre, vous parlez de la mort d'Agnès Sorel, la favorite de Charles VII. On sait aujourd'hui qu'elle est morte empoisonnée. On ne sait pas si c'est un suicide, un accident ou un crime. Mais vous avez pu reconstituer le visage d'Agnès Sorel, qui était extrêmement belle. Ça fait quoi comme émotion quand on arrive à ça?
Alors d'abord, l'émotion, elle ne survient pas au moment où on fait l'étude, parce qu'on est astreint à une froideur scientifique.
À une distance.
Et un détachement. Oui, une distance. Sinon, honnêtement, on est perturbé, on n'est plus objectif, on est subjectif. Donc ça, c'est quand on clôt le dossier. Quand la publication sort dans la revue biomédicale, généralement, et que là, on peut se retourner façon Orphée et qu'on voit en fait le travail qu'on a réalisé, c'est là qu'on se rend compte. Sinon, avant, on est honnêtement dans le bain. Mais c'est vrai que nous sommes là aussi.
Vous imposez cette distance, cette froideur?
En fait, elle est naturelle. Ouais. Pour tous les scientifiques, elle est naturelle. Quand on fait une échographie, quand on fait une autopsie, quand on fait n'importe quel examen, on ne se laisse pas perturber. Voilà, si je devais autopsier actuellement toujours à l'Institut médico-légal quelqu'un que je connais, j'aurai ce même détachement justement pour être droit dans mes bottes et ne rien oublier dans cette checklist scientifique qui est absolument fondamentale. Mais c'est vrai qu'intrinsèquement, en faisant de la paléopathologie, quand on reconstitue des visages, quand on reconstitue des voix, quand on donne des diagnostics rétrospectifs, c'est-à-dire qu'on pose un diagnostic sur des cas qui ont 50, 100 ou 3000 ans, forcément, c'est quelque chose qui devient de l'ordre du sentimental, de l'ordre de l'émotion. Et un visage, c'est une émotion. Et surtout, c'est une image, comme elle est hyper réaliste, elle est hyper vraie aussi, parce que c'est pas une évocation. C'est vraiment une superposition d'épaisseur, de peau, de muscles et de tissu adipeux, de façon stéréotypée, grâce à des bases de données dont on dispose sur tous les scanners qu'on va passer à l'hôpital. Donc c'est quelque chose d'extrêmement beau, c'est vrai, mais surtout d'extrêmement vrai. Et c'est une image qui va écraser les autres images. Sur un moteur de recherche, si vous tapez « visage d'Agnès Sorel », eh bien maintenant, vous aurez notre reconstitution du visage avant de tomber sur le portrait de la Vierge à l'enfant par Jean Fouquet avec eh bien, le véritable visage d'Agnès Sorel, qui d'ailleurs, étonnamment, est très ressemblant.
Je voudrais qu'on parle de Descartes. Vous avez étudié son cerveau. Comment vous l'avez étudié? Qu'est-ce que vous en avez appris?
Ah, c'est vraiment un travail en totale virtualité. Alors, Descartes meurt en 1650, il meurt à Stockholm, il donne des cours de philosophie un peu dans le boudoir, si je peux me permettre, à la reine Christine de Suède, et puis il attrape une maladie très banale, une pneumonie, il meurt, il est enterré dans le carré catholique, à l'époque, la Suède est protestante, et il va être transféré quelques années plus tard en France à la demande de ses suiveurs, ce qu'on appelle déjà les cartésiens. Le corps arrive, et à l'ouverture de la caisse en France, on se rend compte qu'il manque un gros bout, et ce bout, c'est la tête, le crâne en l'occurrence, qui ne va arriver en France que dans les années 1830, par colis postal, envoyé à Cuvier, au Muséum National d'Histoire Naturelle, par Berzelius, son collègue chimiste suédois. Et cette tête, elle a une bonne traçabilité, parce qu'on a la chance d'abord, sur les datations, de la morphologie, sur des mensurations également, sur de nombreuses inscriptions qui sont présentes depuis le front jusqu'à sur le côté latéral droit, tous les différents propriétaires ont laissé leur nom et la façon avec laquelle ils ont acquis cette tête. Donc on a une très bonne traçabilité. Mais c'est une tête osseuse, on n'a plus aucune matière organique. Or, le cerveau est un organe qui est pulsatile. Et au fur et à mesure qu'on vit, eh bien, ce cerveau va imprimer sa marque, sa trace à l'intérieur du crâne. Et donc, grâce au scanner, en étudiant l'intérieur du crâne, on a
en étudiant l'impact, en fait, l'impact qu'il y avait du cerveau sur le crâne.
C'est l'empreinte, exactement. C'est l'empreinte. La surface du cerveau laisse son empreinte sur l'intérieur de la voûte crânienne. Donc, c'est une sorte de positif-négatif. Quand on fait un scanner et qu'on exclut complètement l'os, eh bien, cette aire qui est à l'intérieur du crâne, c'est le cerveau. Et donc, on a pu faire non pas de la phrénologie, cette pseudo-science du 19e siècle, créée par Gall, qui est une bonne idée, mais très mal exploitée. Nous, on a fait plutôt de la neuroanatomie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en comparant ce cerveau avec une centaine de cerveaux reconstitués d'hommes du même âge, ayant vécu à la même période, qu'il avait une petite anomalie. Il y avait une aire corticale, c'est-à-dire une zone qui a une spécialisation intellectuelle ou neurologique, qui était un peu plus grande, voire beaucoup plus grande que dans cet échantillon témoin. C'est l'aire 45 de Brodmann, et cette aire, c'est celle qui s'occupe de l'idéation, l'organisation dans l'espace, et également du choix sémantique, le choix du bon mot, et une dernière chose qui est une propension particulière à la musique et la composition musicale. Alors ça collait deux cases, qu'on connaissait quand même bien pour Descartes, la géométrie bien entendu, les lois de l'optique, parce que c'était vraiment un homme multiple, entre guillemets, pas simplement un philosophe. La sémantique, bah là, pour le coup, pour la littérature et surtout la philosophie, ça coïncidait pas mal. La musique, ça nous a un peu déconcertés. Sauf que, on a découvert, en parlant avec des cartésiens, qu'il était fasciné par la musique, qu'il avait écrit un traité de musique, le Compendium Musicae, mais considérant que c'était un art mineur, il n'a pas souhaité qu'il soit publié de son vivant. Et en 1650, quelques mois après son décès, ce traité sort. Donc, on n'a pas mis en évidence une prédisposition neurologique au génie, ça serait un raccourci totalement faux. Mais peut-être que s'il n'était pas devenu le philosophe et le scientifique qu'on connaît, s'il était resté paysan à La Haye, en Touraine, eh bien peut-être qu'il aurait eu deux récoltes au lieu d'une, parce qu'il aurait hyper bien organisé dans l'espace le passage de la charrue, etc.
Ce chapitre sur Descartes, il est extraordinaire. Alors, vous avez aussi beaucoup travaillé sur des momies, et je voudrais qu'on évoque une magnifique exposition visible jusqu'au 25 mai, si vous venez à Paris au Musée de l'Homme, qui est consacrée aux momies. Vous êtes d'ailleurs au comité scientifique de cette exposition. Moi, j'ai eu la chance de la visiter avec Pascal Cellier, qui est médecin anthropologue et le commissaire scientifique de cette exposition, et je l'en remercie. Ça retrace donc, à travers l'histoire d'individus momifiés, la diversité de cette pratique répandue sur le globe. Et on apprend, c'est très intéressant, les différentes techniques de momification selon l'époque, selon la culture, selon le climat.
Oui, c'est difficile de trouver une civilisation qui n'a pas pratiqué la momification ou l'embaumement. On se rend compte finalement que c'est une pratique qui est extrêmement développée, y compris dans des populations qui vivent en environnement équatorial ou tropical, c'est-à-dire pas forcément propice à la conservation à long terme de corps humain.
C'était quoi le but ?
Le but, il est multiple en fonction des croyances. Soit empêcher la dégradation du corps pour que l'âme puisse y retourner après une étape de jugement et que l'individu puisse vivre une vie longue, soit préserver les traits du défunt dans une sorte de vie qui continue, mais qui est différente de la vie humaine, mais une sorte d'autre vie, d'au-delà. Et cet au-delà persiste tant que les traits du défunt sont reconnaissables ou que la mémoire attachée à l'individu sont encore présents. Et puis ce défunt, sous cette forme-là plastique, avec un visage, avec des éléments anatomiques reconnaissables, il continue toujours à aider l'individu, à lui distiller de bonnes idées, à le prévenir d'un danger éventuel, à organiser son avenir, à une sorte de protecteur de l'autre monde. D'où la nécessité d'avoir une interface qui est encore visible, reconnaissable, et avec lequel on partage toujours une intimité.
Il y a quelque chose de très remarquable dans cette exposition, je trouve, c'est le respect de ces êtres humains, vraiment. Ils sont exposés, présentés vraiment de manière très humaine, et c'est ce qu'on retrouve dans vos livres, le respect total qu'on doit à ces personnes disparues depuis longtemps, sur lesquelles on travaille.
Ce sont des patients. Et on doit toujours moi je me pose toujours la question, et évidemment nos collègues aussi, il faut imaginer que ce puissent être nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, quelqu'un qui nous est cher, en se disant est-ce qu'on doit faire ça pour eux ou ne pas le faire ? C'est pour ça que toute notre démarche de recherche scientifique, elle doit être évidemment poussée par une curiosité, mais qui est une curiosité saine, pas malsaine, dans le respect de l'intégrité physique des patients, mais aussi de leur pudeur. Dans l'exposition momie, par exemple, que vous citez, vous ne verrez pas de nudité, vous verrez des corps qui sont présentés dans une atmosphère particulière, avec un respect qui leur est dû. Pas beaucoup de momies, c'est volontaire.
Tout à fait.
Pas beaucoup, et on ne les découvre pas d'ailleurs tout de suite. On les découvre après une étape préparatoire, et ça vient sur un esprit préparé, si on peut dire. Donc, on ne peut pas tout faire sur eux, on ne doit pas les dégrader, et on ne doit pas non plus répondre à des questions qui ne seraient pas fondées. Et ça, c'est le respect du secret d'Hippocrate, du serment d'Hippocrate.
On parle dans un instant d'un projet qui vous tient à cœur et qui aboutit. C'est dans un instant d'abord notre chronique science d'Alexandra Delbo.
Carnet de santé.
Et si la lumière pouvait aider à contrôler le diabète ? Le diabète fait partie des maladies métaboliques en très forte augmentation. En France, près de 4 millions de personnes vivent avec un diabète de type 2 et dans le monde, plus d'un milliard pourraient être concernés d'ici 2050. Ce diabète de type 2, c'est celui qui se développe avec l'âge, quand les cellules deviennent résistantes à l'insuline. C'est une maladie liée à l'alimentation et l'activité physique, avec bien sûr des prédispositions génétiques, mais elle est surtout qualifiée de maladie évitable. Et elle est aussi emblématique des inégalités sociales. Selon l'Observatoire des inégalités, les 10% les plus pauvres ont 3 fois plus de risques de souffrir de diabète que les 10% les plus riches. Mais au-delà de tout ça, un autre facteur entrerait en jeu, notre horloge interne, autrement dit nos rythmes circadiens. Sharna Dibner est chronobiologiste et professeure associée à la faculté de médecine de l'Université de Genève et aux hôpitaux universitaires de Genève.
Circadien, ça vient des latins circadium, à peu près la journée, et c'est tout simplement le système intrinsèque qui régule tous les aspects de notre santé. Et cette appréhension, maintenant, vraiment mis en focus nos horloges internes. Pour vous donner un exemple, vous les sentez très bien, quand vous prenez l'avion, vous allez de Paris au Washington, vous allez être jet-lagged. Et ça, c'est un exemple que ce système elle est intrinsèque. Et en fait, elle prend le temps pour adapter à un nouvel cycle de jour la nuit. Et elle régule tous les aspects de notre physiologie et notre bien-être. C'est très visible, par exemple, si chez les gens comme policiers ou médecins qui travaillent à l'hôpital, ils sont obligés de travailler en shift. Les études épidémiologiques sont constatées que cette population, ils ont un risque plus élevé de toutes sortes de problèmes de santé, y compris les maladies métaboliques telles que les diabètes de type 2.
On sait que les personnes dont le rythme circadien est perturbé ont un risque plus élevé de maladies métaboliques. D'où une idée simple. Est-ce que l'exposition à la lumière naturelle, qui règle en partie notre horloge interne, pourrait avoir un effet bénéfique chez des patients diabétiques? Cette hypothèse est explorée dans une nouvelle étude publiée dans la revue Cell Metabolism avec un dispositif assez particulier. 13 volontaires ont été enfermés plusieurs jours dans un laboratoire. Il s'agit d'une pièce de vie avec un lit et un petit bureau près d'une fenêtre. Les participants arrivaient le lundi et repartaient le vendredi. Les repas étaient fournis à heure fixe et deux conditions ont été testées. Soit une exposition à la lumière naturelle du jour avec la grande fenêtre ouverte, soit une lumière artificielle allumée le matin et éteinte le soir aux mêmes horaires que le soleil. Ces volontaires avaient tous plus de 65 ans, étaient tous atteints de ce diabète et leurs paramètres physiologiques ont été suivis. Résultat, la lumière naturelle n'a que des bénéfices.
On était presque positivement surpris parce que je vous rappelle que les durées d'exposition aux lumières de jour ou artificielles étaient relativement courtes, 4 jours et demi. Mais ce qu'on a constaté, c'est que leur niveau de glucose, il est effectivement plus stable. Ça veut dire qu'on a moins de variabilité. Et ça, c'est bénéfique. Et ils ont passé les temps plus longs dans les mesures normales de glucose, si vous voulez. Donc, en anglais, ça s'appelle « time in the range ». Et ça, c'est bien sûr très bénéfique quand on souffre de diabète de type 2. Maintenant, on ne va pas surinterpréter, on ne va pas dire que ça remplaçait les traitements. Par ailleurs, je dois rappeler que les gens étaient traités avec leurs médicaments habituels. Donc ça, ça n'a pas changé. Mais comme une mesure auxiliaire, ça a définitivement amélioré ces deux paramètres. Donc, les variabilités des glucoses, il était plus stable, ça c'est bénéfique. Et les temps passés dans les ranges normales, ça c'est aussi très bénéfique.
Leur mélatonine était aussi plus élevée en soirée, ce qui est potentiellement bénéfique pour le sommeil. Dernier effet positif, une amélioration du métabolisme des graisses, avec notamment une diminution de certains lipides appelés céramides, qui jouent un rôle crucial dans la résistance à l'insuline. L'étude a bien sûr ses limites. Elle est exploratoire, c'est une petite étude avec seulement 13 participants. Il n'y avait pas de mise en aveugle. Les volontaires savent s'ils sont exposés à la lumière naturelle ou non. Et on peut imaginer que ne pas voir la lumière du jour pendant 4 jours et demi peut aussi générer du stress, indépendamment du rythme circadien. Mais ce que montre cette expérience, c'est qu'avec tous les paramètres contrôlés, eh bien, on observe malgré tout une différence entre lumière naturelle et lumière artificielle. L'effet n'est donc pas négligeable. Reste maintenant à comprendre les mécanismes précis, comment l'horloge interne agit sur le métabolisme du glucose et si ces effets positifs se maintiennent dans la vraie vie. La prochaine étape sera de refaire cette expérience en conditions réelles, avec des volontaires bardés de capteurs et suivis dans leur vie quotidienne.
Encore une question, Philippe Charlier. Votre ambition, c'était d'ouvrir un musée. Vous en êtes où, ce musée ?
Eh bien, ce musée est en très bonne voie. Il va prendre place au sein du domaine national de Saint-Cloud et ça sera un musée consacré justement aux sciences utilisées pour l'histoire et pour l'archéologie, principalement les sciences biomédicales bien sûr, une sorte d'institut médico-légal de l'histoire où seront présentés de Lucie, notre plus ancienne patiente, 3,2 millions d'années, jusqu'à Picasso, le plus récent, 1973, et bien dans une longue frise chronologique avec quelques focus sur les catacombes de Paris, sur les archives de la préfecture de police de Paris, sur l'archéologie des maladies, les masques mortuaires, les cerveaux reconstitués, et bien au fur et à mesure, on découvrira énormément de personnages historiques qui vont être de plus en plus proches de nous grâce à la médecine légale, ce qui peut paraître paradoxal, mais en fait la médecine rapproche les vivants et les morts.
Il va s'appeler comment ce musée ?
Pour l'instant, le musée anthropologie, archéologie, biologie, le MAB.
D'accord, on a vraiment, franchement, enfin en tout cas moi j'ai franchement hâte. Hein.
Merci Marina.
Et je rappelle votre livre, hein. Vraiment passionnant, avec une iconographie inédite, très intéressante, coécrit avec David Alliot, l'histoire au scalpel, autopsie des morts célèbres, c'est aux éditions Talendier. Et puis donc, si vous êtes à Paris, l'exposition Momie, c'est au Musée de l'Homme jusqu'au 25 mai. Je vous engage à y aller, à emmener vos ados, parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être venu.
Merci Marina.
Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swat Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.